vie de famille.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Vie de famille, présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. En France, 700 000 personnes sont atteintes de troubles de l'autisme. L'autisme est une forme de handicap qui entraîne des troubles du comportement, de la communication et des interactions sociales. Les familles peuvent être démunies face au comportement singulier d'un enfant ou d'un adulte atteint de TSA, des troubles du spectre autistique, démunies face à la prise en charge, face aux démarches à mettre en place pour accompagner au mieux la personne qui leur est proche. Que faire pour accompagner au quotidien les personnes avec troubles autistiques et comment soutenir leurs aidants? Trois professionnels du monde médico-social, issus d'une même structure, ont créé Au-delà des murs, leur entreprise qui a pour vocation d'accompagner et les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et leurs aidants. Ce collectif ressources est porté par Pauline Briand pour l'aide médico-psychologique, Camille Grosset qui est infirmière et Anne-Claire Jarlégan, psycho-éducatrice. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous dans Vie de famille pour nous présenter Au-delà des murs et nous expliquer ce que vous pouvez apporter aux familles qui ont un proche touché par ces troubles. Anne-Claire, est-ce que vous pouvez nous aider à reposer le cadre, nous dire un peu ce que c'est que l'autisme? Quels sont les troubles, les symptômes? Je ne sais pas si on parle de symptômes. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager?
Bonjour. Comme vous l'aviez dit en introduction, il y a bien 700 000 autistes en France, dont 600 000 adultes. Les troubles du spectre autistique font partie des troubles neurodéveloppementaux. On parle de dyade autistique pour définir les troubles du spectre de l'autisme. Donc,
ce qui veut dire ?
La dyade autistique,
oui.
Du coup, c'est un trouble au niveau des interactions sociales, de la communication. Et les personnes qui sont autistes présentent des intérêts spécifiques et des troubles du comportement. À cela, on rajoute aussi des particularités sensorielles. C'est assez nouveau dans les troubles du spectre de l'autisme de reconnaître des particularités sensorielles. Il faut y faire très attention dans
notre... les cinq sens qui sont touchés, qui
oui,
sont...
voire même plus. On peut parler de 6 à 7 sens si on rajoute la proprioception. Donc, c'est la conscience du corps dans l'espace.
Et ça, c'est assez nouveau, c'est ça ce que vous dites?
C'est nouveau de le reconnaître, oui, et d'en prendre compte dans l'accompagnement des personnes avec autisme.
Dans les troubles, vous dites qu'il y a une perception aussi du monde qui est différente?
De manière un peu imagée, on dit souvent qu'ils sont dans leur bulle.
Mm-hmm.
C'est parce qu'ils ont une manière de fonctionner différente. Leur psychisme, leur fonctionnement cérébral fonctionne différemment d'une personne qui n'est pas autiste. Ils traitent l'information de manière séquentielle, c'est-à-dire une info par une info, alors qu'une personne qui n'est pas autiste va pouvoir traiter plusieurs infos en même temps quand l'information ou quand une ou plusieurs informations arrivent dans l'environnement. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, là, au moment T, je suis en train de vous parler, mais par la fenêtre, je capte qu'il y a du vent. Et je peux quand même continuer à vous parler. Une personne avec autisme, il peut qu'il capte juste le vent et qu'il n'arrive plus
on
à vous écouter.
Okay. Voilà. Et est-ce que tous ces symptômes, on parle de symptômes d'ailleurs ?
On peut parler de symptômes, de signes cliniques.
Manifestations.
Alors est-ce que toutes ces manifestations, on va les retrouver chez chaque personne atteinte ou on peut, parce qu'on est plus ou moins atteint, on est plus ou moins... touché par l'autisme, Anne-Claire?
On est plus ou moins touché par l'autisme. Il n'y a pas un autisme, mais des autismes. C'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre de l'autisme. Un autisme ou des autismes, c'est pour ça que ça définit le spectre.
Mm-hmm.
Un continuum, en fait. Et du coup, ça définit aussi le degré de sévérité. On peut être touché plus spécifiquement par un trouble du comportement, n'avoir pas de problème de communication, mais des problèmes d'interaction sociale quand un autre aura davantage de problèmes de communication et pas de langage et moins de troubles du comportement.
D'où la difficulté de déceler en fait l'autisme qui touche ces 700 000 personnes?
C'est parfois difficile de le diagnostiquer parce que ça peut faire penser à d'autres handicaps avant l'autisme. On peut penser qu'il peut être sourd ou avoir d'autres pathologies psychiatriques, psychologiques que l'autisme.
Parce qu'en général, on diagnostique la personne atteinte vers quel âge ? Qu'est-ce qui alerte ?
Les signes d'alerte, c'est à partir de 18 mois à peu près, donc bébé. Donc ça, les trois gros signes d'alerte, ça va être absence de babillage, donc l'enfant qui commence à parler,
c'est
à
pour
émettre
communiquer,
des sons,
en fait,
pour communiquer. Donc ça, généralement, il n'y a pas. Absence de pointage, un bébé est censé pointer à un certain âge.
Montrer,
ouais. Et le contact visuel, regarder son papa, sa maman, quelqu'un.
Il ne cherche pas, donc là on est toujours enfin, il y a la communication, l'interaction, finalement il ne cherche pas à entrer en contact avec l'autre.
Et diagnostic différentiel par rapport à la surdité, puisque c'est des enfants aussi qui ne vont pas forcément répondre à leur prénom, qui ne vont pas forcément se retourner quand il y a un bruit, puisque justement ils sont soit c'est des troubles sensoriels déjà très présents,
oui.
Soit effectivement il y a le fait qu'ils soient focalisés dans ses intérêts restreints ou qu'il n'y ait pas d'intérêt à communiquer.
Le côté bulle dont vous parliez tout à l'heure.
Après, c'est important de préciser qu'on ne devient pas autiste, on est autiste et surtout on n'en guérit pas.
Oui, donc il y a pas de soins, il y a des accompagnements. Vous allez nous partager aussi tout ça.
Nous, on ne parle pas de soins parce qu'on considère qu'on n'en guérit pas. Ce n'est pas une maladie. C'est pour ça qu'on fait.
Mais on progresse.
Voilà, on peut progresser, on peut évoluer, on peut atténuer les troubles. Mais on sera
aider
toujours.
La société à accepter les personnes telles qu'elles sont aussi et leur offrir un cadre de vie plus respectable et aménagé.
Vous allez peut-être chacune nous raconter aussi un petit peu votre parcours et pourquoi vous avez eu envie de créer cette structure au-delà des murs. Pauline, vous voulez nous dire comment ça s'est passé pour vous et quelle est votre spécialité ?
Donc moi j'ai commencé à travailler il y a 14 ans. J'ai travaillé auprès de plusieurs publics, les enfants, les personnes âgées, notamment les personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer. J'ai fait ma formation d'aide médico-psychologique, ce qui m'a ouvert un petit peu le champ du médico-social et où j'ai découvert le public de personnes en situation de handicap. Je travaillais auprès de personnes en situation de polyhandicap. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire l'ouverture d'une structure spécialisée dans l'autisme.
D'accord, c'est là où vous avez découvert un peu le monde de l'autisme,
où j'ai fait la connaissance d'Anne-Claire et de Camille. On a eu la chance d'avoir des formations communes avant l'ouverture.
Pour spécifiquement l'autisme, alors
L'autisme, okay. Oui. Pour l'ouverture de cette structure, pour accompagner 20 jeunes avec autisme et déficience intellectuelle associée.
Donc, quand vous dites jeunes, c'était des
jeunes adultes.
D'accord.
Entre 20 et 40 ans.
20 et 40 ans.
Mais la moyenne d'âge était plus 25 ans.
Ok, parce que c'est ce qu'on voyait aussi, hein, l'autisme. En fait, il y a 700 000 personnes, dont 600 000 qui sont des adultes. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes à suivre. Camille, vous voulez nous dire, vous, comment... Voilà, quel a été votre parcours rapidement aussi avant de monter au-delà des murs ?
Bien, je suis infirmière depuis une dizaine d'années. J'ai parcouru plusieurs services. Du coup, c'est pareil, on s'est rencontrés dans la structure, là, il y a 5 ans, 6 ans.
Et vous avez aussi découvert le monde de l'autisme à ce moment-là ?
Oui.
Et vous, Anne-Claire ?
Moi, je n'ai pas découvert l'autisme il y a 5 ans. Je suis psychoéducatrice. J'ai fait une licence de psychologie et après, je me suis spécialisée avec une licence professionnelle. Donc, spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec autisme. Donc, je travaille dans l'autisme depuis à peu près 10 ans.
Ok. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été dans cette structure? Visiblement, il y a quelque chose qui a déclenché aussi cette envie de créer. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez appelé ça au-delà des murs? Et qu'est-ce que vous avez envie de combler ou de proposer, Anne-Claire? Allez, pourquoi au-delà des murs?
Alors, pourquoi au-delà des murs? Déjà, ça a été assez compliqué de trouver le nom. Ce qui nous rapproche toutes les trois, c'est qu'on a travaillé en structure médico-sociale, mais qu'on voulait aller toucher toutes les personnes avec autisme dans n'importe quel environnement, donc qu'ils soient en structure ou à domicile ou dans le sanitaire. Donc on va plus parler du coup dans les hôpitaux.
Donc ça, ce sont pour les personnes qui accompagnent, non?
On peut accompagner des personnes avec autisme dans tous ces
oui,
milieux-là,
c'est ça, d'accord.
Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Au-delà des murs, c'est-à-dire dépasser un peu tout ce qui fait qu'ils sont accompagnés dans des murs.
De pouvoir sortir un peu du cadre.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, un peu quel a été l'élément déclencheur ? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire passer particulièrement comme message en créant cette structure, ce collectif ressources, Camille ?
En fait, à l'ouverture de la structure, qui accueillait 20 personnes, on a découvert qu'il y avait déjà une liste d'attente de personnes qui souhaitaient rentrer dans la structure, mais bon, voilà, c'était complet. Et du coup, on s'est demandé à ce moment-là, qu'est-ce que devenaient ces personnes ? Qu'est-ce que créait cette attente ? Et du coup, on a voulu créer une solution.
Votre objectif, c'était un peu de répondre à un manque dans l'accompagnement.
Et aller à la rencontre des personnes qui sont qui souffrent d'isolement et venir les soutenir dans leur quotidien.
Et donc, non seulement les personnes atteintes de ces fameux troubles, mais aussi les personnes qui les accompagnent, les aidants, ceux qui les soutiennent au quotidien.
En fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on vient apporter une aide à l'aidant ou à la personne directement, mais le projet de base, c'était quand même venir soutenir l'aidant dans son quotidien et pour lui apporter des clés dans l'accompagnement de son proche avec le trouble du spectre de l'autisme.
Nous allons faire une courte pause musicale en écoutant Buena Vista Social Club, musique qui vous touche particulièrement. Alors, est-ce que Pauline, vous pouvez nous dire pourquoi ?
C'est une musique qu'on a beaucoup entendue au sein d'une maisonnée dans laquelle on travaillait. Un résident en particulier aimait beaucoup cette musique, donc elle nous a fait.
Ça fait un lien, avec eux. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Vie de famille et je reçois aujourd'hui trois professionnels du monde médico-social, Camille Grosset, Pauline Briand et Anne-Claire Jarlégan, qui ont monté un collectif ressources pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique et pour les aidants qui les accompagnent. Alors si, voilà, on a bien compris hein, votre structure, donc Au-delà des murs, votre parcours, on a balayé rapidement l'autisme. Donc pour vous, il y a une importance de la sensibilisation aussi pour les accompagnants.
La sensibilisation, elle touche toute personne qui viendrait en aide à une personne avec autisme, aussi bien des professionnels qui travaillent en structure, des familles, mais aussi des professionnels qui interviendraient ponctuellement auprès de personnes avec autisme. On peut imaginer un employé de mairie, par exemple, qui ne saurait pas répondre à la demande d'une personne avec autisme.
Vous voulez sensibiliser de façon très large pour pas qu'il y ait de barrières ou de freins quand une personne vient se renseigner. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, avec Au-delà des murs, qu'est-ce que vous proposez pour sensibiliser ?
Alors, on a un module de sensibilisation sur plusieurs heures où on va balayer toutes les particularités des personnes avec autisme, l'accompagnement qu'on peut proposer. Donc on propose une diffusion de contenu théorique vraiment on personnalise en fait aux personnes auxquelles on va faire cette sensibilisation.
Parce que pour vous, il y a beaucoup de méconnaissance, c'est ça, dans notre monde actuel, en fait, face à l'autisme.
Oui, en fait, on se rend compte que les personnes ne savent pas que les personnes avec autisme ont des particularités sensorielles. Il y a beaucoup de freins dans notre société. On n'accepte pas non plus la différence. On peut en découler et on n'adapte pas assez notre société à ces particularités. On voit émerger quand même certaines pratiques comme l'heure dite de confort dans des supermarchés, comme des super-rues.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là?
Alors, c'est des supermarchés qui proposent 1 à 2 heures, entre guillemets, où ils atténuent les lumières, les bruits, ils éteignent la musique pour les particularités sensorielles des personnes avec autisme.
Ok, donc ça veut dire que c'est, je n'avais jamais entendu ça, c'est très intéressant, et ça veut dire que c'est, pardon pour cette question qui est peut-être, mais ça veut dire que c'est pour les personnes qui travaillent, s'il y a des personnes autistes qui travaillent, ou ça peut être, c'est pour les personnes qui viennent, et donc il faut savoir, il faut avoir l'information.
Oui, et c'est des horaires qui sont pour le moment des horaires où il y a moins d'affluence aussi, donc ça peut être un avantage pour les personnes, mais après les personnes qui travaillent, même des personnes avec autisme qui travaillent, du coup, c'est un peu difficile parce que c'est des horaires entre 13h et 14h par exemple, mais c'est déjà un pas en avant.
Ouais.
Et on voit qu'il y a des sensibilités qui restent encore à grandir, quoi.
Enfin, mais il y a déjà, on sent des tout petits pas alors.
C'est ça, des petits pas.
Ok, donc vous occupez de cette sensibilisation, enfin vous proposez en tout cas pour une meilleure connaissance et puis suivant le public que vous voulez sensibiliser aussi. Et dans tout ce qui est accompagnement, parce que ça on sait bien que très souvent on se sent très démuni quand on est aidant ou quand on est dans l'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez? Anne-Claire.
Du coup, c'est une prestation de soutien à domicile pour les personnes avec autisme elles-mêmes et leurs accompagnants. Donc, c'est-à-dire que c'est soit une personne avec autisme sans déficience intellectuelle qui peut faire appel à nous, ou alors si c'est avec déficience intellectuelle, c'est souvent sa famille, ses parents qui font appel à nous, ou c'est un professionnel paramédical dans notre réseau qui va nous appeler en nous disant j'ai un patient, il faudrait l'accompagner à son domicile sur tel ou tel objectif, ou potentiellement une structure médico-sociale qui aurait besoin sur un temps donné d'un accompagnement supplémentaire, d'un soutien supplémentaire parce qu'ils sont dans une impasse.
Donc vous allez réfléchir ensemble, vous allez beaucoup discuter, échanger.
Ouais. De là, on recueille les attentes de la personne qui nous interpelle. On en dégage des objectifs qu'on va mettre dans un projet d'accompagnement personnalisé. Mmh. Et ces objectifs-là, on va les mettre en œuvre sur un laps de temps bien déterminé. Parce qu'Au-delà des murs n'a pas vocation à accompagner les personnes avec autisme sur une durée illimitée. C'est bien sûr des objectifs précis qu'on aura déterminés ensemble, qu'on construit ensemble quand cela est possible avec la personne autiste elle-même ou sa famille du coup, et ou sa famille. Ça peut être des objectifs donc par exemple somatiques, ça peut être de l'apprentissage aux soins, par exemple l'apprentissage du vaccin pour la Covid par exemple. Ça peut être accompagner une personne à développer son autonomie en vue d'accéder à une structure médico-sociale d'ici quelques années. Ça peut être une personne autiste sans déficience intellectuelle qui est très isolée et qui a besoin de soutien dans la gestion de son quotidien, dans l'aménagement de son espace de vie.
Et donc vous allez avoir en fait, c'est très varié aussi tout ce que vous pouvez proposer, et donc de réfléchir, donc il y a de la co-construction, c'est ce qui doit être riche aussi dans la rencontre.
C'est primordial.
Et il y a des outils, vous développez aussi des outils ou des... Qu'est-ce que vous développez comme proposition, Pauline ?
On peut, si c'est un, les objectifs, c'est développer la communication. On va pouvoir proposer des moyens de communication alternatifs, par exemple une communication par échange d'images. On va aussi proposer une structuration spatio-temporelle. Donc, ça veut dire qu'on va aider la personne à se repérer dans le temps et dans l'espace, avec comme appui un emploi du temps pour gérer les différents temps de la personne dans la journée ou dans la semaine.
Et donc ça, vous pouvez le créer avec lui, et ensuite, il peut le garder et le reproduire. Donc vous, limite, là, vous aurez rempli votre objectif. L'idée, c'est de vous l'aider à avancer, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il va progresser. Et ça, c'est quelque chose qui peut être acquis ensuite.
C'est ça, c'est ça. En fait, on va aider la personne ou le proche à faire elle-même, c'est-à-dire à aménager son temps, à rajouter. On va lui donner toutes les clés pour essayer de tout mettre en place pour atteindre son objectif.
Alors, si j'entends bien, il y a un état des lieux qui n'est pas forcément très positif en France. Enfin, je ne sais pas si vous dire positif, mais si, ça vous avez l'air d'approuver le terme, Anne-Claire.
Pas très positif quand même. Après, c'est encourageant, on va dire. Il y a quand même les politiques publiques, elles font depuis des années des plans autisme.
Mais qui sont trop générales, en fait, c'est ça. C'est qu'il faudrait être plus proche de chacun, ce qui est compliqué aussi.
Manque de moyens financiers, a un peu de retard par rapport à des pays anglo-saxons, des pays comme le Canada, l'Angleterre.
Vous vous inspirez du coup de ces pays-là ?
Oui, ouais. Dans les techniques, mais pas que nous. Certaines structures médico-sociales aussi et d'autres professionnels, collègues. Également. Maintenant, à ce jour, en France, il y a une transformation de l'offre médico-sociale qui fait que la création de structures en dur diminue au profit de services plus souples et plus réactifs. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité créer Au-delà des murs. C'est pour être plus réactif, pour apporter une réponse plus rapide et permettre que les personnes avec autisme soient moins isolées et qu'on arrive à les accompagner plus efficacement et plus rapidement.
Il y a d'autres structures qui existent comme la vôtre, vous savez un peu ou...
Il y a des équipes mobiles en Bretagne qui se sont créées. Il y a aussi des éducateurs spécialisés en libéral qui se créent, qui se développent depuis quelques années, je dirais, je sais pas, entre 5 et 10 ans à peu près. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau.
Nouveau. Et vous êtes sentie aidée, comprise Camille ?
Oui. Oui, ici, on est. Là, on a nos statuts depuis le mois de mars. On a quand même rencontré des gens assez facilement.
Vous avez senti qu'il y avait une attente ?
Oui, il y a un grand besoin. Donc, il y a des attentes des pouvoirs publics aussi. On a pu rencontrer le conseil départemental, l'ARS, alors qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas de moyens à nous offrir, mais qu'en tout cas, le besoin est identifié. Donc, peut-être que c'est des choses qui vont arriver. Là aussi, le gros enjeu, c'est de pouvoir créer une force avec les collègues qui font sensiblement les mêmes choses ou des professionnels installés en libéral, des psychomotriciennes, des orthophonistes, de créer...
L'importance, en fait, de travailler quand même avec tout ce réseau existant. Bien sûr. Pas du tout à vouloir être...
Non, okay. Ça n'a pas de sens, en fait. Puis c'est des personnes qui ont besoin quand même d'accompagnement spécifique avec plusieurs disciplines professionnelles autour.
Et alors, quelles sont très concrètement les aides pour les familles qui seraient intéressées pour travailler avec vous ? Est-ce que via la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, est-ce qu'il y a possibilité aussi d'avoir des aides, Pauline ?
Pour le moment, nous avons demandé du coup à la MDPH si c'était possible. Nous sommes une entreprise qui est un petit peu, de par sa construction, un peu innovante. Et on ne rentre pas dans les cases. Puisque nous ne sommes pas un service à la personne à proprement dit, où là, les personnes auraient le droit à une aide financière, puisque nous n'allons pas aider la personne directement, mais nous allons aider son proche à faire les choses. Donc, pour le moment, le reste à charge pour les familles reste existant. C'est vrai qu'on essaye de rencontrer le plus de personnes possible pour essayer de changer les choses, mais pour
ça
le moment...
Ça peut prendre un peu de temps.
Ça peut prendre un peu de temps, et puis on essaye de changer un petit peu ce point de vue et essayer de faire évoluer, en fait, cette prise en charge, comme quoi une entreprise peut très bien aider les personnes. Voilà, on est une entreprise innovante.
Un stade qui a besoin encore un peu d'évoluer. Et en fait, les ateliers que vous proposez, les accompagnements, vous disiez que c'était très cadré, Anne-Claire, tout à l'heure. Combien de temps, vous, les familles s'engagent pour, ou la personne s'engage pour combien de temps, Pauline ?
On a imaginé un modèle un petit peu sur 9 séances, une façon dégressive sur 4 mois. Donc, on va accompagner la personne de façon intensive sur les 2 premiers mois.
Donc, pour se rencontrer, co-construire le projet, bien comprendre vous, évidemment.
Pour entrer en confiance aussi avec la personne avec autisme.
Oui, quand c'est elle directement.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va travailler sur 9 séances en général d'une heure. Après, tout est adaptable suivant les situations et puis la demande, en fait. Il peut avoir plusieurs objectifs pour la même personne, mais il peut aussi en avoir qu'un seul pour les 9 séances.
Et puis qui peut-être évolue aussi suivant
ce que vous, suivant
ce que vous proposez. Est-ce que avant qu'on termine, vous avez envie de répondre à une question que je ne voudrais pas poser, Camille? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer là? Est-ce qu'il y a quelque chose, un point particulier que vous aimeriez mettre en avant
Il y a énormément de choses à réfléchir. On sent quand même qu'il y a un modèle là qui s'effrite, le modèle institutionnel médico-social, et qu'il est temps que tout le monde se rend compte pour savoir comment on fait ensemble.
Ouais, l'idée de vraiment bien travailler tous ensemble autour de cette problématique.
Oui, parce que là, de proposer des solutions, en fait, si on est une équipe mobile, certes, mais en fait, si on co-construit pas quelque chose là pour les années à venir, en fait, ça aura pas vraiment de sens. En fait, on va faire des actions isolées. Et là, le but, c'est pas de nous-mêmes recréer de l'isolement. Là, l'intérêt, c'est quand même de continuer à se rencontrer, continuer à rencontrer les familles, continuer à rencontrer surtout les personnes concernées elles-mêmes par l'autisme. En fait, c'est un point d'honneur quand même de faire rentrer les gens directement concernés par les troubles du spectre de l'autisme au sein des réflexions, parce que c'est elles qui peuvent nous dire aussi ce dont elles ont besoin, comment elles voient leur accompagnement, comment elles voient leur intégration dans cette société.
Elles sont les mieux placées et les plus précieuses dans le...
Et c'est, en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on tend, c'est d'arrêter de parler à la place d'eux, mais d'offrir une place, un espace de parole digne.
Une place entière. Merci beaucoup Anne-Claire Jarlégan, Camille Grosset et Pauline Briand d'être venues dans Vie de famille nous apporter votre éclairage et vos propositions d'accompagnement pour les adultes atteints de ces troubles du spectre autistique grâce à votre structure Au-delà des murs. Vous trouverez toutes les informations concernant Au-delà des murs sur notre site et vous pourrez également réécouter cette émission grâce au podcast en allant sur le site de Radio Fidélité, rubrique Vie de famille. Merci et à la semaine prochaine.
C'était Vie de famille.